Emmanuel Kant, la religion dans les limites de la raison. Quatrième partie. Du vrai culte et du faux culte sous l'empire du bon principe ou de la religion et du sacerdoce. C'est déjà un commencement de la domination du bon principe et un signe de l'arrivée du règne de Dieu parmi nous que la diffusion publique des seuls principes de la constitution de ce règne. Car dans le monde intelligible, le règne de Dieu existe déjà, aussitôt qu'y ont pris racine universellement les principes qui seuls ont le pouvoir de le réaliser, bien que sa complète apparition dans le monde des phénomènes puisse encore être reculée dans un lointain inaccessible. Nous avons vu que la formation d'une république morale est, pour tous, un devoir de nature particulière, et que, s'il est vrai que l'on peut conclure de ce que chaque homme accomplit son devoir privé à un accord accidentel de tous en vue du bien commun, sans qu'il soit besoin pour cela d'une disposition particulière, on ne saurait pourtant espérer cet accord de tous, à moins de leur donner pour tâche spéciale le devoir de s'unir entre eux, pour un même but à poursuivre, et de fonder une république placée sous l'égide des lois morales pour repousser en masse, et par suite avec plus de force, les assauts du mauvais principe, auxquels séparément les hommes ne sont que trop portés à servir d'instrument. Nous avons vu aussi que cette république, en sa qualité de règne de Dieu, l'homme ne saurait l'établir qu'au moyen de la religion, et que ce règne, enfin, afin que la religion soit publique, ce qui est nécessaire dans une république, peut être représenté sous la forme sensible d'une église que les hommes sont donc obligés de constituer, car son organisation est une œuvre dont on leur a laissé le soin et que l'on peut exiger d'eux. Mais constituer une église, c'est-à-dire une république régie par des lois religieuses, est chose qui semble exiger plus de sagesse, tant sous le rapport de l'esprit qu'au point de vue de la bonne intention, qu'on ne saurait vraiment en attendre des hommes. Il semble surtout que le bien moral visé par cette institution devrait déjà être présupposé en eux pour qu'ils la fondent. En fait, c'est un non-sens de dire que les hommes devraient fonder un royaume de Dieu, comme l'on dit, à juste titre, qu'ils peuvent établir celui d'un roi humain. Dieu doit être lui-même l'auteur de son royaume. Mais étant donné que nous ignorons ce que Dieu fait directement pour traduire en fait l'idée d'un royaume dont il est le chef et dont nous devons être citoyens sujets d'après la destination morale que nous trouvons en nous, alors que nous savons bien ce qu'il nous faut faire pour être susceptibles de devenir membres de ce royaume, cette idée, peu importe que la raison ou l'écriture l'ait éveillée et rendue publique en espèce humaine, nous obligera cependant à organiser une église qui, dans le dernier cas, aura Dieu lui-même pour fondateur et par conséquent pour auteur de sa constitution. Mais où les hommes toutefois, en tant que membres et citoyens libres de ce royaume, sont, dans tous les cas, les auteurs de l'organisation, puisque ceux d'entre eux, en effet, qui ont reçu mission d'administrer ces affaires publiques, en constituent l'administration. Ceux-là sont les ministres de l'Église, tandis que le reste des hommes, collectivités soumises à leurs lois, constituent la communauté. Une religion fondée sur la raison pure n'admet, en tant que foi publique religieuse, que la simple idée d'une Église, celle d'une Église invisible. Et seule l'Église visible, qui est fondée sur des statuts, doit et peut recevoir des hommes une organisation. Par conséquent, servir sous les ordres du bon principe dans la religion de la raison pure ne pourra pas être considéré comme s'acquitter d'un culte ecclésiastique. Et cette religion n'a pas de ministres légaux en tant que fonctionnaires d'une république morale. Chaque membre y reçoit directement les ordres du souverain législateur. Mais comme toutefois, eu égard à tous nos devoirs, qu'il nous faut aussi regarder à titre de commandement divin, nous sommes constamment au service de Dieu. La religion de la raison pure aura tous les hommes bien pensants pour ministres, sans les avoir pour fonctionnaires. On ne pourra point, pour cela, les appeler ministres d'une église, s'entend d'une église visible, la seule qui soit en question ici. Cependant, puisque toute église basée sur des lois statutaires ne peut être l'église vraie qu'autant qu'il y a en elle un principe qui la rapproche constamment de la foi rationnelle pure, celle qui, lorsqu'elle est pratique, constitue à vrai dire la religion dans toute croyance, et arrive à pouvoir la faire se passer de la foi ecclésiastique, de tout ce qu'il y a d'historique dans cette foi. Nous pourrons malgré tout dire que ces lois et les officiers d'église fondés sur elles ont en vue un service, un culte de l'église. Si les enseignements des ministres de cette église et des dispositions qu'ils prennent visent constamment à ce but suprême, à une foi religieuse publique. Par contre, quand on voit les ministres d'une église ne faire aucun cas de ce but, déclarer plutôt condamnable la maxime qui pousse à s'en rapprocher continuellement et proclamer que l'attachement à ce qu'il y a d'historique et de statutaire dans la foi ecclésiastique est la seule chose sanctifiante, on peut avec raison faire peser sur eux l'accusation de mal servir l'Église ou ce qui est représenté par elle, la collectivité morale gouvernée par le bon principe. Par mauvais service ou faux culte, il faut entendre la persuasion où l'on est de servir quelqu'un par des actes qui vont, en fait, à l'encontre de ses desseins. C'est ce qui se produit dans une république quand on emploie ce qui n'a que la valeur d'un moyen servant à satisfaire la volonté d'un chef pour ce qui nous rend immédiatement agréable à ses yeux, intervention de rôle qui rend vain les desseins du chef. Première section. Du culte de Dieu dans une religion en général. La religion, vue subjectivement, est la connaissance de tous nos devoirs comme commandement divin. Note. Cette définition aura le mérite de prévenir plusieurs fausses interprétations du concept de la religion générale. Premièrement, en ce qui concerne la connaissance et la profession théorique, elle ne requiert pas de science assertorique, pas même celle de l'existence de Dieu. Parce qu'en raison de notre ignorance au point de vue d'objets suprasensibles, il se pourrait déjà qu'une profession de ce genre fût simulée. Elle présuppose tout simplement, au point de vue de la spéculation, en ce qui regarde la cause suprême des choses, une admission problématique, une hypothèse, et, en ce qui regarde l'objet vers lequel nous fait tendre notre raison qui commande moralement, une croyance assertorique, pratique, et par conséquent, libre, promettant un effet à la fin suprême de la raison. Il n'est ainsi besoin que de l'idée de Dieu, où doivent aboutir inévitablement tous les efforts moraux ayant en vue le bien accompli sérieusement et par conséquent avec foi, sans qu'on se prétende capable, par la connaissance spéculative, de garantir à cette idée la réalité objective. Dans les choses qui peuvent être données comme un devoir à tous, le minimum de connaissances, entre parenthèses, il se peut qu'il y ait un Dieu, fermez la parenthèse, doit, au point de vue subjectif, être suffisant à lui seul. Deuxièmement, cette définition de la religion en général s'oppose à la fausse idée par laquelle on la représente comme un ensemble de devoirs spéciaux qui se rapportent immédiatement à Dieu et nous empêchent ainsi d'admettre, chose à laquelle l'homme se sent par ailleurs très enclin. Outre les devoirs humains, éthico-civils, les devoirs des hommes envers les hommes. Un service de courtisan grâce auquel nous pourrions tenter de racheter nos manquements aux devoirs de la première espèce par l'accomplissement des autres. Il n'y a point de devoirs spéciaux envers Dieu dans une religion universelle, car Dieu ne peut rien recevoir de nous. Nous ne pouvons agir ni sur lui, ni pour lui. Présenter le respect que nous devons à Dieu comme un devoir de cette sorte, ce serait oublier qu'il ne constitue pas un acte de religion spéciale, et qu'il est, au contraire, le sentiment religieux présent dans tous les actes conformes aux devoirs que nous accomplissons en général. Sans doute, il est écrit, dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 9, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Mais cette parole veut simplement nous faire comprendre que si, par hasard, des lois positives, par rapport auxquelles les hommes peuvent être juges et législateurs, entrent en conflit avec des devoirs que la raison prescrit de manière absolue et dont l'accomplissement ou la transgression ne peut avoir que Dieu pour juge, il faut que les premiers cèdent la place aux autres. Mais si, par ce en quoi l'on doit obéir à Dieu plus qu'aux hommes, on voulait désigner les ordres positifs de Dieu que nous fait connaître une Église, un pareil principe pourrait aisément devenir le cri de guerre, hélas tant de fois entendu, de prêtres hypocrites et ambitieux, excitant les foules à la révolte contre l'autorité civile. Car les actes licites qu'ordonne le pouvoir civil sont certainement un devoir. Tandis que les actes en soi licites, mais uniquement connaissables par révélation divine, nous ne savons jamais, au moins pour la plus grande part, que d'une manière fort incertaine, s'ils nous sont vraiment commandés par Dieu. Fin de la note, retour au texte. Celle où je dois savoir d'abord que quelque chose est un commandement divin pour reconnaître en cela mon devoir et la religion révélée ou qui exige une révélation. Celle au contraire où il me faut d'abord savoir que quelque chose est un devoir avant d'y pouvoir reconnaître un ordre divin est la religion naturelle. Celui qui professe que seule la religion naturelle est moralement nécessaire et constitue donc un devoir peut être encore nommé rationaliste dans les choses de la croyance. Quand il nie la réalité de toute révélation divine surnaturelle, le rationaliste est naturaliste. S'il en admet la possibilité, tout en soutenant qu'il n'est pas requis nécessairement, pour la religion, qu'on la connaisse ni qu'on la regarde comme réelle, on peut le dire alors rationaliste pur. Mais celui par qui la croyance à une pareille révélation est considérée comme nécessaire à la religion générale peut recevoir le nom de pur supranaturaliste dans les choses de la croyance. Il faut que le rationaliste, en vertu même de son titre, se cantonne dans les limites de l'humaine pénétration. Par suite, il ne prendra jamais le ton décidé du naturaliste et ne contestera ni la possibilité intrinsèque d'une révélation quelconque, ni la nécessité d'une révélation comme moyen divin servant à introduire la religion véritable. Ainsi, le différend portera seulement sur les prétentions réciproques du pur rationaliste et du supranaturaliste dans les choses de la croyance, c'est-à-dire ne concernera que ce que l'un ou l'autre tient pour nécessaire et pour suffisant en vue de l'unique religion vraie, ou ce qu'il admet en elle de contingent. Si l'on envisage la religion non plus d'après sa première origine et sa possibilité intrinsèque, qui la font diviser en naturel et révélé, mais simplement d'après ce qui la rend apte à se communiquer extérieurement, on peut en trouver deux espèces. La religion naturelle, à laquelle chacun, aussitôt qu'elle existe, peut arriver par sa propre raison, et une religion savante, où il est impossible d'amener les autres autrement que par l'intermédiaire de la science dans et par laquelle il faut les guider. Cette distinction est très importante, car on ne saurait nullement conclure de l'origine seule d'une religion au pouvoir qu'elle a ou n'a pas d'être une religion humaine universelle, tandis qu'on le peut de sa qualité d'être ou de ne pas être communicable à tous. Et l'universalité constitue le caractère essentiel d'une religion qui veut embrasser tous les hommes. Il se peut ainsi qu'une religion soit naturelle et en même temps révélée, quand elle est telle que les hommes, par le simple usage de leur raison, eussent pu et dû y arriver d'eux-mêmes, quoique moins de bonheur et en moins grand nombre qu'on ne le souhaite. Ce qui peut avoir fait de sa révélation, à un certain moment et dans un certain lieu, une chose sage et très profitable à l'espèce humaine, mais à la condition qu'une fois ainsi introduite, du moment qu'elle existe et s'est fait connaître publiquement, il soit possible à n'importe quel homme d'obtenir, par lui-même et par sa raison propre, la conviction qu'elle est vraie. En ce cas, objectivement, cette religion serait naturelle, tandis qu'elle serait subjectivement révélée. Le premier qualificatif est donc celui qui lui appartient proprement. Car on pourrait, dans la suite des âges, perdre entièrement la mémoire du fait d'une pareille révélation surnaturelle, sans que pour cela, cette religion vit diminuer en rien sa clarté ou perdit de sa certitude et de sa puissance sur les esprits. Il en est autrement d'une religion que sa qualité intrinsèque nous permet seulement de considérer comme révélée. À moins d'être gardée par une très sûre tradition ou d'être conservée dans les livres saints qui la prouvent, elle disparaîtrait du monde. Et il faudrait qu'une révélation surnaturelle eût lieu dès lors périodiquement, si on la suppose publique, ou bien se produisît continuellement, dans le cas contraire, en chaque homme, sans quoi cette croyance ne serait pas capable de se répandre et de se propager. Mais il faut qu'au moins, en partie, toute religion, même révélée, ait encore certains principes de la religion naturelle. Car la révélation ne peut être ajoutée au concept d'une religion que par la raison, parce que ce concept lui-même, étant dérivé d'une soumission à la volonté d'un législateur moral, est un pur concept de raison. Une religion révélée pourra donc elle-même être considérée d'un côté comme naturelle et de l'autre comme savante. Et dans son examen, on pourra distinguer ce qu'elle doit et combien elle doit à chacune de ces deux sources. Or, pour parler d'une religion révélée ou tout au moins tenue pour telle, nous devons emprunter un exemple à l'histoire. Car pour être compris, nous serions contraints, sans cela, d'inventer, à titre d'exemple, des cas dont on pourrait nous refuser d'admettre la possibilité. Le mieux, c'est de prendre un livre qui en contienne. surtout un de ces livres où se trouvent encastrés des préceptes moraux et, par conséquent, des doctrines apparentées à la raison, et d'en faire usage pour expliquer notre idée d'une religion révélée en général. Nous nous servons en ce cas de ce livre comme d'un quelconque de ceux, si nombreux, qui traitent de la religion et de la vertu sous le couvert d'une révélation, pour y chercher des illustrations de la méthode, en soi utile, qui consiste à mettre en lumière ce qu'il peut contenir de religion pure, de la raison. De religion, par suite, universelle, sans vouloir, ce faisant, empiéter du reste sur le domaine de ceux qui ont la charge d'interpréter ce livre en sa qualité de sommaire de toutes les doctrines positives y révélées, ni attaquer leur interprétation, qui se base sur la science. Ces derniers, au contraire, ne pourront que gagner, puisqu'ils se proposent le même but, c'est-à-dire le bien moral, à voir les philosophes arriver par les propres forces des principes de leur raison, au même point où la révélation veut, par une autre voie, conduire les mortels. Nous prendrons ici comme guide le Nouveau Testament, source des croyances chrétiennes, et en appliquant notre point de vue, nous envisagerons, dans les deux chapitres qui suivent, d'abord la religion chrétienne comme religion naturelle, puis la même religion comme religion révélée, dans son contenu et d'après les principes qui s'y présentent.